Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand les gènes rendent les jeunes mangeurs difficiles, un texte de Catherine Anfield, paru le 13 octobre 2024 dans la presse. On a tous, dans notre entourage, un enfant qui ne mange pratiquement rien. Est-ce la faute des parents? Est-ce une affaire génétique? Une étude récente suggère que l'environnement familial a un impact, mais pas autant que les gènes. Mais de quels gènes parle-t-on? Explications scientifiques et astuces de nutritionniste. 60% génétique. De nombreux médias ont rapporté dernièrement les résultats d'une étude sur les mangeurs difficiles. On connaît encore peu les causes de cette réalité qui accable bien les parents. Et c'est ce que les chercheurs ont voulu explorer. En analysant les données d'une cohorte de 2400 paires de jumeaux identiques et non identiques, ils en sont venus à cette conclusion. Les variations génétiques expliqueraient 60% des raisons pour lesquelles l'enfant est difficile à l'âge de 16 mois et de 74 à 84% chez les enfants de 3 à 13 ans. Quels sont les autres facteurs en cause? Environnement familial, chez les tout-petits, comme le fait d'être exposé à la maison à différents fruits et légumes, et les expériences individuelles, chez les plus grands. Combinaison complexe. Cette étude n'est pas la première à s'intéresser aux jumeaux pour mieux comprendre l'influence des gènes dans nos préférences alimentaires. De façon générale, ces études concluent que ces préférences s'expliquent à environ 50% par l'hérédité. Il s'agit probablement d'une combinaison compliquée entre les gènes et l'environnement, indique le chercheur Nicolas Pirastou, qui travaille à l'Institut de recherche Human Technopole en Italie. En 2022, Nicolas Pirastou et ses collègues ont publié une vaste étude dans la revue Nature Communication. Ils ont sondé les préférences alimentaires de plus de 150 000 participants ayant fourni des échantillons d'ADN. Leur but, mieux cerner les phénomènes qui sous-tendent les choix alimentaires. Cerveau et apprentissage. Génétiquement parlant, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un enfant ne veut rien savoir des légumes, du grain entier, des mets épicés, alouettes, alors que le petit voisin mange de tout sans rouspéter? Il semble que tout se joue dans le cerveau, et plus particulièrement dans la zone du cerveau liée aux apprentissages. Les humains ont rarement un goût inné pour ce genre d'aliments. Leur cerveau apprend à les aimer, en finissant par y trouver une forme de plaisir, un peu comme les adultes qui apprennent à aimer la bière et le café, explique Nicolas Pirastou. Il faut être exposé à ces aliments, sans quoi cet apprentissage ne peut se faire, résume-t-il. Certaines personnes ont apparemment plus de difficultés à apprendre cette chose spécifique. Super goûteur. Dans le passé, les médias ont beaucoup parlé des super goûteurs, ces gens qui réagissent fortement à l'amertume des aliments. Des chercheurs se sont particulièrement intéressés aux gènes qui codent la réception du goût amer, le TAS2R38, et plusieurs petites études ont été publiées. Certaines ont montré une association entre ce gène et la consommation de légumes, d'autres pas. Dans son étude portant sur un large échantillon de plus de 150 000 personnes, Nicolas Pirastou s'est lui aussi intéressé à ce fameux gène TAS2R38. Résultat, nous avons observé une forte association entre ce gène et les boissons alcoolisées et avec l'ajout de sel, mais pas avec les légumes, indique Nicolas Pirastou. Sauf avec le brocoli. Mais l'association est faible. Pour le reste, la chose ne tient pas. Pourquoi les aliments ont-ils un goût si fort pour les supergoûteurs? On ne le sait pas. Peut-être ont-ils plus de papilles gustatives, ce qui les fait goûter tout plus intensément, pas seulement l'amertume. Aliments satisfaisants. Les mangeurs difficiles ont souvent une préférence pour les aliments faciles à aimer, comme les desserts, les pâtes blanches, la pizza, le steak. Bref, pour les aliments sucrés ou qui ont un côté umami riche en énergie que l'être humain aime de façon innée. Les gènes associés à la perception des saveurs et des odeurs n'auraient rien à voir dans l'attrait envers ces aliments. Ça se passe également dans le cerveau, cette fois dans la région responsable de la réponse au plaisir, explique le chercheur Nicolas Pirastou. Des gens diront que c'est une affaire de volonté s'ils n'aiment pas autant ce genre de nourriture que d'autres. Mais ils ne ressentent tout simplement pas le même besoin d'en manger, souligne-t-il. Ces recherches ouvrent donc la voie à de nouvelles avenues de traitement de l'obésité qui pourraient permettre, par exemple, de modifier les désirs alimentaires des gens. Petit appétit. Nutritionniste à l'hôpital de Montréal pour enfants, Abigail Brodovitch pense à un autre facteur physiologique déterminant chez les enfants qui refusent de manger. Le faible appétit, tout simplement. À la base, il y a certains enfants qui, depuis la naissance, n'ont vraiment pas très faim, résume-t-elle. D'autres facteurs peuvent jouer, dit-elle, comme le reflux, la constipation, l'hyposensibilité ou l'hypersensibilité, le trouble du spectre de l'autisme. Si on a une association négative avec l'activité de manger, peu importe la cause, c'est plus difficile de vouloir continuer. Résume Abigail Brodovitch. Des cercles vicieux peuvent alors s'installer à la maison. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, la génétique, la biologie, la psychologie. Ce n'est pas juste l'environnement. Et donc, ultimement, ce n'est pas la faute des parents. Vous écoutez, quand les gènes rendent les jeunes mangeurs difficiles, un texte de Catherine Anfield, paru le 13 octobre 2024 dans la presse. 7 trucs pour diversifier l'alimentation de fillettes et fistons. Les gènes influencent beaucoup les préférences alimentaires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour diversifier les goûts d'un enfant difficile. Voici 7 astuces essentielles. Miser sur la faim. Pour que le cerveau finisse par associer un aliment à quelque chose de plaisant, il faut y goûter lorsqu'on a faim. C'est la base. Nutritionniste à l'hôpital de Montréal pour enfants, Abigail Brodovitch conseille de servir l'aliment qui pose problème au tout début du repas, avant les autres. Puis, on encourage l'enfant à prendre une bouchée pour goûter. Le repas devrait être servi 3 heures après la collation, encore une fois pour s'assurer que l'enfant ait faim lorsqu'il passe à table. Persévérer. Les jeunes enfants peuvent avoir besoin d'essayer un nouvel aliment 15 fois avant de l'adopter. Je répète à mes familles, essayez encore et encore et encore et encore en petite quantité, dit Madame Brodovitch. Il vaut mieux éviter le plus possible de cuisiner des repas à la carte pour son enfant. Abigail Brodovitch souligne une chose, lorsqu'on sert toujours la même chose à son enfant, ce dernier risque de se tanner. Et là, on est mal pris, dit-elle. Revoir la routine. Les nutritionnistes accompagnent les familles pour rendre la période du repas plus agréable, moins stressante. Il faut souvent déconstruire certains moyens compensatoires que les parents ont mis en place de bonne foi, mais qui contribuent au problème. Nourrir son enfant devant l'iPad ou en chantant, lui servir toujours son repas préféré. Les parents doivent aussi apprendre à apprivoiser l'inconfort. Son enfant n'a pratiquement rien mangé au souper, il n'en mourra pas. Limiter la durée. Deux trucs pour adoucir la routine du repas. Faire participer l'enfant à la préparation du repas, lorsque c'est possible, et limiter le temps passé à table à 30 minutes. Peut-être qu'il y aura quelques bouchées qui vont rentrer après 30 minutes, mais pas grand-chose, souligne Abigail Brodovitch. Alors plutôt que de rester là, en train de stresser, on passe à autre chose et on revient dans 3 heures pour la collation. Ne pas forcer. Entre encourager et forcer, la ligne est fine. Chercheur en génétique, Nicolas Pirastou ne croit pas qu'il faille forcer ni récompenser l'enfant avec un dessert. Ça ne fait que renforcer l'idée que c'est un aliment qu'il n'aime pas, dit-il. Donc, on lui demande de goûter quelquefois, et s'il n'aime pas, il n'aime pas. Il y goûtera de nouveau une autre fois. Après tout, c'est permis de ne pas aimer un aliment. Je détestais le ragoût de bœuf, enfin. Je n'aime toujours pas ça, et c'est correct, résume Abigail Brodovitch. Tenir un journal. La clinique 180 a une solution ludique. Tenir un journal de découverte culinaire. Chaque fois qu'on goûte à un aliment, on le dessine dans un cahier où on appose un autocollant le représentant. Puis, chaque membre de la famille, parents inclus, dessine ensuite un bonhomme pour représenter son appréciation. Un bonhomme sourire, un bonhomme fâché, ou un bonhomme mi-sourire, mi-fâché. Et on recommence, chaque fois que l'on goûte de nouveau l'aliment. Patienter. Les études qui se sont intéressées à la trajectoire des enfants difficiles sont encourageantes. Après un sommet de difficultés, dans la petite ou la moyenne enfance, la situation s'améliore pour la majorité des enfants. L'influence des pères fait son œuvre. Des parents auraient aussi avantage à relativiser leur situation. « Qu'est-ce que c'est, un mangeur difficile ?» demande Madame Brodovitch. « Est-ce que c'est un enfant qui accepte 4 choses seulement ? Ou est-ce un enfant qui n'aime pas les sushis et le pesto ?» C'était « Quand les gènes rendent les jeunes mangeurs difficiles », un texte de Catherine Enfield, paru le 13 octobre 2024 dans la presse.
L'irréparable de Pierre Sanson, une métamorphose. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 26 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Un roman où l'on déjoue toutes les interprétations qui semblent s'imposer au détour d'un chapitre. La page suivante et notre lecture nous ouvrent d'autres pistes. Tout cela pique la curiosité pour le personnage principal du livre, un universitaire à l'aube de la vieillesse qui perd son poste, remplacé par une professeure plus jeune et qui ressent une profonde injustice qui deviendra obsessionnelle. Comment alors réparer cette injustice? Mais à travers cette trame narrative, Pierre Sanson en profite pour aussi interroger le monde et l'époque dans laquelle nous vivons. Il y a la question du pouvoir, celui des autres et aussi le sien propre, le vieillissement et les relations avec les plus jeunes, mais aussi ce qu'il appelle la doxa, que l'on ose interroger et qui, pour beaucoup, est devenu un dogme aussi fort et contraignant que les dogmes auxquels il et elle s'opposent. On pourrait croire qu'à travers ce vieux prof, Pierre Sanson s'en prend à un certain féminisme, à l'écriture inclusive, aux étudiants, étudiantes de plus en plus incultes qui sont devenus des clients, clientes dans le système scolaire, etc. Mais là encore, surprise. Le discours au fil du roman s'effrite, se module, laisse apparaître le doute. Il est pris à son propre jeu au départ. Son discours est aussi rigide que ceux qu'il dénonce, explique Pierre Sanson en entrevue. Mais je souhaitais parler de ces discours qui apparaissent et se demander si on pouvait en discuter sans être tout de suite condamné, que tout n'est pas noir ou blanc, et que si sur un sujet on apporte des réserves, on ne soit pas considéré sans autre forme de procès comme un ennemi. On le voit bien aujourd'hui avec le conflit israélo-palestinien, où l'on doit se ranger d'un côté ou de l'autre. Le personnage fort de ses convictions se lance alors dans une enquête pour démontrer que celle qui le remplace est une usurpatrice. Paléographe de formation et de profession, il connaît les ficelles pour se rendre compte si un document est authentique ou un faux, et donc mène une enquête sur celle qui lui a volé son poste. Mais là aussi, Pierre Sanson sait déjouer toutes nos attentes, car les conséquences des recherches via Internet de son personnage auront des conséquences inattendues et bien loin de celles qu'il aurait espérées, et surtout bien plus dramatiques. Cette quête qu'il va mener va l'obliger à se déconstruire et à réfléchir sur la position victimaire qu'il a adoptée, continue Pierre Sanson, parce qu'il perd son travail, parce qu'il entre dans la catégorie des gays qui, passé 60 ans, n'existe plus, selon lui. Le style de Pierre Sanson mériterait une étude en soi. L'auteur, comme le personnage, ne cède à aucune complaisance sachant adapter le niveau de langue aux différentes situations que vit le personnage, nous amenant à mieux comprendre comment ce professeur pense, voit et analyse le monde qui l'entoure et qui semble l'exclure tout autant qu'il s'en exclut. La force de ce roman tient en fait dans cette transformation, dramatique sinon tragique, mais qui évolue en filigrane d'un cynisme à peine voilé à quelque chose qui a tout à voir avec l'humanité redécouverte. C'était « L'irréparable » de Pierre Sanson, une métamorphose. Un texte de Denis-Daniel Boulay, paru le 26 septembre 2024 dans le magazine Fugue.
Et du calcul contre l'imposition de sanctions à partir de 0,05. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallée paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir. Organisme à but non lucratif chargé d'informer les Québécois sur la consommation d'alcool, et du calcul s'oppose depuis près de 20 ans à l'adoption d'une mesure administrative pour les conducteurs ayant plus de 50 mg d'alcool par 100 ml de sang. Une position incompréhensible pour les experts consultés par Le Devoir. Sur le 0,05, on était absolument aux antipodes avec Éducalcool, raconte Jean-Marie de Coninck. En plus d'être président fondateur de l'opération Nez Rouge, le professeur de l'Université Laval a présidé de 2005 à 2015 la Table québécoise de la sécurité routière, qui avait le mandat de faire des recommandations au ministre des Transports pour améliorer le bilan routier. En 2007, elle a recommandé que des sanctions administratives soient imposées à partir d'une alcoolémie de 0,05, comme c'est déjà le cas ailleurs au pays, à l'exception du Yukon. La mesure faisait alors l'objet d'un vif débat, car la ministre des Transports de l'époque, Julie Boulay, l'avait incluse dans un projet de loi sur la sécurité routière. À la surprise de Jean-Marie de Coninck, Éducalcool s'est prononcé contre la mesure en commission parlementaire d'étude du projet de loi. « C'est pas mal eux autres qui ont tué notre projet », parce qu'ils avaient beaucoup de crédibilité. Je pense que leur appui aurait fait une grosse différence. Une interrogation partagée par Julie Boulay. C'était étonnant, comme réaction, de la part d'un organisme censé prôner la consommation responsable, indique l'ex-ministre. Moi, j'y croyais profondément à cette mesure. On suspendait le permis 24 heures, il n'y avait pas de préjudice pour les fautifs, ça aurait fait boire tout le monde un peu moins. une constellation de mesures. Dans son mémoire déposé lors des travaux sur le projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière, Éducalcool affirme qu'il est difficile, sinon impossible, d'attribuer à la baisse du taux d'alcoolémie à ce niveau des mérites spécifiques directs, tout en reconnaissant qu'il est indiscutable que l'alcool affaiblit les facultés des conducteurs même à un niveau de 0,05 ou 0,06. Il poursuit en disant que l'alcool seul ne peut expliquer tous les accidents et qu'une majorité d'accidents de la route sont dus à des conducteurs parfaitement sobres. Le rapport conclut que notre société a des moyens limités et ne peut investir des ressources partout. Adopter une mesure sans en prévoir l'implantation, c'est comme ne pas l'adopter du tout, écrivait Éducalcool. La position de l'organisme continue à créer un malaise, aujourd'hui, selon les experts consultés par Le Devoir. C'est une fausse logique. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous pouvez vous concentrer sur une chose à la fois. C'est le même argument que l'industrie du tabac a utilisé à propos de la législation sur les espaces sans fumée, souligne Mark Pettigrew, co-auteur d'une étude britannique publiée en 2017 dont le titre se traduirait par « Comment les organisations de l'industrie de l'alcool trompent le public au sujet de l'alcool et du cancer ». En décembre 2010, lorsque le nouveau ministre des Transports, Sam Ahmad, abandonne le 0,05 pour s'assurer de l'adoption du projet de loi renforçant la sécurité routière, Éducalcool publie un communiqué dans lequel il salue la dernière version du projet de loi. En entrevue avec Le Devoir, Hubert Sassy, ancien directeur d'Éducalcool, explique que la position de l'organisme n'avait pas pour objectif d'aller à contre-courant. Dans le contexte de l'époque, le 0,05 allait seulement donner une fausse impression s'il n'y avait pas une constellation d'autres mesures qui l'accompagnaient. On voulait mettre les politiciens devant leurs responsabilités. Si vous faites ça, c'est uniquement pour vous donner bonne conscience. Nous, on ne veut pas endosser ça. On veut des solutions sérieuses et efficaces qui fonctionnent. Remplacer une loi qu'on n'applique pas par une autre loi qu'on n'applique pas, ça a zéro résultat et ça a été amplement démontré. En 2017, le ministère fédéral de la Justice a aussi ouvert la porte à l'abaissement de l'alcoolémie au volant à 0,05, cette fois dans le code criminel. 27 organisations ont été appelées à se prononcer, dont Éducalcool. L'organisme a répondu que plus de recherches et de consultations devraient être effectuées avant qu'on envisage une telle baisse. Le projet a depuis été mis sur la glace. Trop proche de l'industrie? Lors de la commission parlementaire étudiant le projet de loi de 2007, seul Éducalcool, l'Union des tenanciers de bars du Québec et l'Association des restaurateurs du Québec ont déposé un mémoire défavorable à l'implantation de mesures administratives à partir de 0,05. Selon plusieurs, ce sont la méconnaissance et l'incompréhension du rôle de l'organisme, bénéficiant par ailleurs d'une grande crédibilité, qui explique qu'Éducalcool a pu faire pencher la balance dans ce dossier. Marie-Claude Morin, porte-parole de Mères contre l'alcool au volant, avait abordé le sujet lors de ses consultations. Éducalcool est un organisme sans but lucratif financé par les ventes d'alcool au Québec. Alors, pour nous, il y a définitivement problème de conflit d'intérêts. Je pense que les gens qui siègent sur le conseil d'administration d'Éducalcool ont une position qui est défavorable à tout changement qui pourrait impliquer un changement au niveau de la consommation d'alcool, avait-elle déclaré à la commission parlementaire. Madame Morin se souvient particulièrement des nombreuses prises de position contre le 0,05 de la part d'Éducalcool et de l'industrie de la restauration et des bars. À l'époque, dit-elle, l'Association des restaurateurs du Québec avait décidé de miser sur la peur en écrivant des lettres ouvertes dans les médias pour dire aux gens que c'est fini, ils ne pourront plus prendre un verre avec leur épouse à la Saint-Valentin. des recommandations du coroner. Signe qu'Éduc'alcool jouit d'une grande crédibilité, il n'est pas rare de voir l'organisme visé par des recommandations du coroner lorsqu'il s'agit de décès liés à l'alcool au volant. En novembre 2022, le coroner Donald Nicol a notamment recommandé au ministère de la Sécurité publique du Québec, à la Société de l'assurance automobile du Québec et à Éduc'alcool de coordonner leurs efforts afin de mettre en place des mesures permanentes visant à rappeler aux conducteurs les conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou les drogues. En entrevue avec Le Devoir, le coroner Yvon Garneau dit considérer que l'organisme doit jouer un rôle de prévention des décès sur la route et n'être guère satisfait des réponses qu'Éduc'alcool donne aux recommandations en la matière. C'est un peu toujours la même rhétorique qui circule. Il parle de modération, mais pas des impacts d'un abaissement de l'alcoolémie à 0,05. Ce serait peut-être une bonne idée de leur suggérer de changer un peu leur thème, indique-t-il. Le 26 janvier 2024, la directrice actuelle d'Éduc'alcool, Geneviève Desautels, a répondu aux recommandations du bureau du coroner dans 6 dossiers à travers une seule missive que Le Devoir a pu consulter. Elle écrit qu'Éduc'alcool poursuit ses efforts en vue de renforcer les liens avec l'ensemble des parties prenantes et de toujours mieux accompagner la population québécoise à faire des choix éclairés en matière de consommation responsable. Pour Mme Desautels, entrée en poste en 2022, il n'est pas question d'appuyer l'adoption du 0,05 tant que son implantation n'est pas accompagnée d'autres mesures comme des services de raccompagnement qui ont plus de bon sens, particulièrement en région. En entrevue avec Le Devoir, elle insiste également sur la mise en place d'Action Service, une formation destinée notamment aux serveurs, qui outille ces derniers afin qu'ils sensibilisent mieux les conducteurs au sujet de leur consommation d'alcool. On doit arriver avec une proposition qui supporte justement cette question-là du 0,05 et que ce ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau pour se donner bonne conscience en disant « Nous, on a ajouté la limite administrative du 0,05, notre job est fait. Moi, je suis désolé, mais non, ce n'est pas ce que la science nous dit. » C'était Éduc'alcool contre l'imposition de sanctions à partir de 0,05. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallet paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir.